Radio éphémère 89.1 MHz.
CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU en mode Lost and Found, c'est toujours notre entrée 2025. Oui, on fait une deuxième fournée. C'est les 10 ans de l'émission. Et ah mince, j'ai pas complété la troisième trop tard. L'équipe aujourd'hui, Gabriel, Infoset Grunt, Ben, Thibaut, Enflammé et The Screech. Et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Ok, on y va. Bonjour à tous et nous sommes toujours en train d'enregistrer depuis le Theta Lab au sein de Picto et nous remercions infiniment de leur patience et de nous accueillir. Bonjour donc à Gabriel, à Infested qui sont déjà trop éloignés des micros. Bonjour à Ben, bonjour à Thibaut.
Bonjour.
Qui eux vont arriver et bonjour d'ailleurs aux invités qui sont pour la troisième émission qu'on va enregistrer. Ça fait donc 18 mois qu'on a mis en jachère CPU. On est en retour, mais on est encore en convalescence. On commence par un rythme quinzomadaire, aussi dit bimensuel, à ne pas confondre avec bimestriel, c'est pas la même chose, c'est tous les deux mois. Et on dit aussi Fortnite en anglais, oui, je sais. Ce qui veut dire qu'on commence par une émission tous les 15 jours. Si jamais, on a suffisamment de rythme et de matière, on reviendra en hebdomadaire. On n'y est pas encore, parce que là, le petit pépé, il est en train de réapprendre les outils et tout ça, il est en train de dégripper, et le WD-40 marche pas toujours très bien sur Audacity 3. Juste pour rappel, il y a 10 ans, quand nous avions lancé CPU, nous étions une dizaine d'auteurs dans l'équipe, dont des signatures journalistiques. Ça m'avait espanté qu'ils avaient dit oui et qu'ils avaient participé. Et on enregistrait et mixait l'émission dans les conditions du direct, des fois moins de 48 heures avant la diffusion, ce qui me donnait environ 6 heures pour tout remonter pour la diffusion radio et web. Et à l'époque, donc, on amenait une table de mixage, on enregistrait sur un PC. C'était un cirque, littéralement. Et on remercie tous les responsables des lieux qui nous ont reçus pour enregistrer. Et ça s'est toujours très bien passé. Avec le temps, je suis passé à l'enregistrement multipiste et au mixage online, ce qui est un immense avantage point de vue qualité audio et souplesse de construction des émissions. Mais entre-temps, on est aussi passé d'une dizaine d'enthousiastes à 1,5. Tout récemment, Infested et Gabriel ont eux aussi connu des tournants dans leur vie et je comprends qu'ils ne peuvent plus autant s'impliquer dans l'émission. Donc, tout seul en moyenne, chaque émission me prend environ 30 heures de production, documentation, écriture, vérification, enregistrement, dérush, montage, préparation pour la diffusion radio, adaptation pour le web. Mais heureusement, il y a des nouveaux qui arrivent. Enfin, des gens qui connaissaient déjà l'émission et qui arrivent pour me faciliter littéralement la vie. Et donc, bonjour Ben. Ben, tu es l'un des grands briscards de l'association Silicium.
En effet.
Mais pas que. Et ben, présente-toi, je t'en prie.
Bonjour The Screech. Donc, je suis Benoît. Je suis Toulousain depuis plus de 20 ans et membre de l'association Silicium depuis une quinzaine d'années, où l'on fait du rétro-computing et du rétro-gaming.
Je t'avais proposé de faire des émissions justement dans ce domaine-là et tu m'avais parlé d'un sujet qui te tenait à cœur. C'est un piratage des années 80. Pour l'instant, c'est en stand-by sur l'écriture parce que là, on a décidé de faire ce qu'on appelle en interne une émission documentaire. Donc, ça veut dire qu'on fait tous les textes qui sont préécrits. Donc, c'est extrêmement lourd, mais précis sur l'écriture. Mais par contre, donc, on a parlé dans la précédente émission de la disparition de Grégory Estrade. Et on va faire un sujet sur les FPGA.
En effet, donc Grégory était l'un des électroniciens de l'association, capable de réparer à peu près n'importe quoi et aussi de concevoir de nouvelles cartes électroniques modernes à mettre sur nos anciens ordinateurs pour leur apporter de nouvelles fonctions. Et donc sa disparition nous manquera considérablement, on est très triste.
On reparlera justement, puisque donc c'est un projet, on en parlera dans la suite de cette chronique. Thibaut, un spécialiste reconnu du chiffrement dans une multinationale ultra importante d'Internet que personne ne connaît. Présente-toi, je t'en prie.
Bah, bonjour, moi je suis Thibaut, Toulousain depuis un peu moins longtemps que Ben. Je suis arrivé donc sur Toulouse pour faire des études en 2018, quelque chose comme ça, peut-être 2015. 2015 à 2018, je suis parti un peu visiter autour et je suis revenu à Toulouse à la suite des divers confinements en 2021. Et c'est vrai qu'en retournant sur Toulouse, j'ai regardé un peu ce qui se faisait donc dans l'écosystème en radio, en culture, etc. Je suis tombé sur ton émission que j'ai trouvé très sympathique.
Pas de lèche.
Non, c'est vrai, très sympathique. Je crois que j'avais commencé avec l'épisode sur les QR codes et les codes barres. Donc les codes barres puis les QR codes dans l'ordre. C'est vrai que ça m'a beaucoup plu et bon, on a discuté un moment et bon, effectivement, je fais du chiffrement et de la cryptographie. Dans mon activité quotidienne et ça m'intéressait de pouvoir en discuter un peu plus. Voilà.
Thibaut, sois franc, s'il te plaît. Outre que ça y est, tu commences à avoir l'accent New Queen, et c'est pas pour nous déplaire, mais franchement, quand t'as repris mes notes sur la petite histoire de la cryptographie, t'as dû te dire, mais franchement, mais quelle cave !
Non, c'est pas vrai. Il y avait deux, trois trucs à corriger. Il y avait quelque chose, des mots, des termes, des façons de dire qui n'étaient pas forcément les bonnes. Mais bon, c'est pas forcément des sujets qui sont évidents et il y avait quand même pas mal de travail et de documentation derrière. Enfin, ça demande beaucoup de taf de passer dessus et non, c'était bien.
Moi, je suis content que quelqu'un le reprenne, même si c'était très amusant de recevoir quand j'étais chez le veto, un coup de fil d'un célèbre cryptographe. Ça m'avait fait bizarre. Mais du coup, c'est toi qui vas raconter tout ça et tout le reste. Là aussi, c'est du documentaire. On va prendre du temps. En tout cas, tous les deux, déjà, vous avez commencé à produire du texte parce qu'on est obligé de le préparer très en avance. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que vous êtes vraiment dans le ton de l'émission. On verra tout à l'heure avec toi, Ben, justement, peut-être qu'on l'a déjà écouté. Je ne sais pas encore. J'ai pas encore monté le programme. Deux chroniques qu'on va enregistrer plus tard dans la soirée. Je dis ça pour ceux qui sont derrière et qui sont impatients. J'espère que d'autres plumes, d'autres voix interviendront à la régulière dans CPU. Et qui sait, sachez qu'il y a d'autres manières de contribuer. On a besoin d'aide, notamment sur les transcriptions d'interviews qui nous sont utiles pour le public malentendant, voire même la transcription de chroniques dont je n'ai jamais eu le texte. Un Solaris. Si vous le pouvez, si ça vous intéresse justement de faire cette transcription, contactez-nous par email à redaction@cpu.pm. Sachez par exemple que FFmpeg 8 propose désormais des outils de transcription via IA. Donc si ça vous dit de tester, ben vous êtes les bienvenus. Et je tiens à signaler le retour d'une des voix qui était au début de l'émission de CPU. C'est quelqu'un qui n'est pas revenu au micro depuis 2018. Alors je sais pas si vous voyez de qui je parle. C'est quelqu'un qui était connu.
Ah, ouais. C'est le danger.
Comment ça, le danger? Alors, on va pas revenir un petit peu sur cette négativité par rapport à quelqu'un qui a payé son tribut à la société et qui s'est fait soigner pour ça.
Oui, d'accord, ok.
Donc, oui, on verra, enfin, vous verrez. Mais oui, j'ai dû prendre sur moi, encore une fois, pour qu'il vienne. Parmi les projets qui vont très vite arriver, nous allons donc organiser un enregistrement public sur les FPGA. Alors l'idée, c'est de faire un enregistrement avec un spécialiste, c'est Fred Requin, si je me trompe.
Autre membre de l'association Silicium.
Et qui est
développeur professionnel.
Développeur professionnel et qui travaillait justement sur les projets de Silicium avec justement Grégory Estrade. Nous le faisons avec donc l'association Silicium. Normalement, ça devrait avoir lieu dans non pas dans un hackerspace, mais dans un Fab Lab. Dès qu'on a l'information de la date et du lieu, ce qui n'est pas encore verrouillé au moment de l'enregistrement, on le rajoutera à ce sonore. Oh putain, je vais me faire chier à le faire pour l'enregistrement. Et si nous le savons avant la diffusion de l'émission, je te parie que je le saurais pas à temps, juste 24 heures avant. Pour cela, le mieux pour se tenir au courant, la newsletter et notre réseau social. Oui. L'émission sur les FPGA sera enregistrée en public le samedi 11 octobre à partir de 14h à Artilect, 10 rue de Tripière, métro Esquirol. Après l'enregistrement, s'il y a de la demande dans le public, on fera le Hello World du FPGA sur un devboard et il y aura en libre service des démonstrations d'applications de rétro gaming. Ouais, et c'était ça l'idée, c'est que ça soit en public et qu'il y ait justement qu'il y ait un peu la possibilité d'échanger justement là-dessus sur cette technologie qui est un petit peu bizarre. On va programmer du hardware, mais franchement programmer, c'est-à-dire c'est pas du logiciel que non, on programme. Vous verrez, c'est du FPGA. Radio FMR vient d'avoir son autorisation d'émettre renouvelée par Sainte Arcom. Cette autorisation n'est plus sur 5 ans. Normalement, c'est des autorisations de 5 ans qui sont renouvelées une fois. là, on a eu d'un coup 15 années. Elle couvre aussi bien notre diffusion en FM qu'en DAB+. À noter que si nous avons le droit de le faire en FM jusqu'en 2040, cela veut dire que la diffusion en radio analogique ne sera pas éteinte ni en 2033 comme envisagé au début par l'État, ni en 2038. Cela nous permettra de couvrir le bug de date unique sans radio analogique, ce qui est très pratique vis-à-vis de certains autoradios. Oui, parce que CPU est une émission de radio éphémère et cela nous oblige à suivre des règles très précises vis-à-vis de notre autorité qui nous gouverne, l'ARCOM. Et je vous renvoie à notre émission à ce sujet avec son bureau de Toulouse. Cette convention de diffusion avec l'ARCOM nous donne droit, en tant que radio associative, de bénéficier encore de l'accord entre les radios associatives et la SACEM concernant la diffusion de musique et d'éléments sonores soumis à droit d'auteur, aussi bien en direct radio qu'en streaming, qu'en réécoute à la demande et en podcast. Et by the way, il faudrait qu'on parle de notre diffusion en podcast. En 2021, Spotify s'ouvre au podcast et pleure pour qu'on s'inscrive en tant que podcast chez eux, puisqu'ils ouvraient donc là-dessus à ce contenu supplémentaire qui n'était pas purement musical. On a été gentils, on s'est référencés chez eux. Mais nous avons gardé nos hébergements natifs. 2025, tous les épisodes de CPU sont systématiquement supprimés du catalogue Spotify, car ils estiment que les accords de diffusion musicale entre les radios associatives et la SACEM ne sont pas valables pour eux, alors qu'ils couvrent aussi l'écoute à la demande sur le web et les podcasts. À noter que Spotify est le seul à nous avoir censurés. Ni Google, ni Apple, ni Deezer, ni PodCloud ne nous ont fait chier sur le fait que nos émissions utilisent des musiques, puisque nous sommes une émission de radio dans un cadre conventionnel, ce que je l'ai dit, avec la SACEM. Si vous êtes encore chez Spotify, partez. Ils paient de toute façon très mal les artistes et ils recourent à de la musique par IA, qui est littéralement une manière de moins payer les artistes. Je parlais de participer à l'émission CPU, vous pouvez participer presque passivement avec les partages, les likes et la visibilité. Si vous avez l'occasion, mettez-nous un petit commentaire sur Apple Podcast ou votre app de podcast favorite comme Podcast Addict ou des plateformes comme PodCloud et j'en passe. Même une note, ça fait plaisir et du coup, les gens se disent « Ah tiens, je vais essayer puisqu'il n'y a pas rien ». Et accessoirement, oui, on est toujours une radio associative. Alors, on met des pubs, mais elles sont fausses. Si, si, vous comprendrez très vite. Il se trouve qu'à Toulouse, la cause de mortalité principale n'est pas due au fait de nommer pain au chocolat une chocolatine, mais serait plus due au fait de ne pas saluer et de remercier un chauffeur en quittant un bus de chez Tisséo. Infesegont.
Oui, moi, j'ai pivoté. Je ne suis plus dans les réseaux virtuels, mais dans les réseaux physiques, et en l'occurrence le Tisséo. Bienvenue sur nos lignes. Est une girouette, cet écran LCD en pastille en haut des bus que l'on trouve en début de service à Tisséo, le réseau de transport en commun de Toulouse et de son agglomération. Mais le message le plus visible reste « Je monte, je valide » qui s'affiche en alternance avec le numéro de la ligne et la destination. Oui, il faut bien payer en validant son ticket pour financer les nouveaux bus, le salaire des conducteurs, ainsi que les dettes de la construction des métros, tramways et du téléphérique.
Du quoi ?
Téléo, c'est vrai, Téléo. Pour valider, il existe plusieurs solutions, dont le plus utilisé, le ticket papier, que l'on faisait poinçonner par le contrôleur dans un bus chausson, puis avec une bande magnétique avec un valideur Matra. Rappelons le contexte. Depuis quelques années, les opérateurs de transport, Tisséo, IDF Mobilité et autres SMTC, tentent de réduire la place des tickets papier avec ou sans magnétique ou QR code. Les tickets papier sont souvent jetés hors des poubelles à la sortie du métro, du tramway, des bus et des téléphériques, entraînant pollution et non-recyclage. La première solution a été de remplacer les tickets d'abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel par des cartes en plastique avec le sans-contact NFC. Une carte par abonné avec les droits de réduction inscrits et un rechargement facilité dans la même puce. Ainsi, on voit fleurir les cartes Navigo, Pastel, Baggio, etc. Les cartes en question ont le défaut d'être réservées aux utilisateurs réguliers des transports en commun et surtout d'être nominatifs, donc réservées à un seul individu. Difficile d'en faire profiter la famille ou les amis de passage. Mais le tarif de la carte oscille entre 5 et 10 euros, à la création comme au changement. Difficile d'adapter ce système à une version pour plusieurs usagers. Mais avec les confinements des années 2020, les sociétés de ticketing ont cherché des moyens de contournement pour obtenir du sans-contact avec des tickets. D'abord, ils ont cherché des solutions de paiement sans contact avec l'open paiement. Ainsi, certains ont choisi d'adapter le système de cartes plastiques en collectif, comme la carte Navigo Easy à 2 euros chez IDF Mobilité. tandis que d'autres ont choisi la solution du ticket papier NFC, le format papier avec donc du sans-contact. De plus, les valideurs dans les métros, trams, métros, téléphériques et funiculaires n'auront pas embarqué une imprimante et un lecteur magnétique. Ils sont donc plus compacts. Avec le succès de la solution sur les lignes Azur de Nice Métropole en 2023, TCO choisit la solution papier NFC avec des tickets rechargeables. J'en ai amené quelques-uns, s'il y en a qui veulent regarder.
Non. Je te rappelle que nos auditeurs n'ont pas forcément payé la redevance couleur.
Bah oui. Le ticket rechargeable est très simple. Une antenne NFC et une puce mémoire sont incorporées dans le papier d'un ticket. Rose pour les ventes dans la navette aéroport, bleu pour le ticket dernière minute dans les bus, brique pour les autres distributions et des éditions spéciales comme pour certains événements, comme par exemple le Tour de France en jaune. Allez, comptez 20 centimes pour l'acquisition d'un ticket brique et inclus dans les tickets dernière minute à 2,50€ et les tickets aéroport à 9€, prochainement 10, avec un dépassement inclus. La puce contient un numéro d'identification avec les tickets et abonnements attachés, tous chiffrés, comme dans la carte Pastel ou Montoulouse. Le rechargement du ticket est possible dans les agences TCO, les distributeurs du métro, tram et Téléo et depuis l'application mobile TCO sur Android et iOS, ainsi que chez les commerçants partenaires. On les a encore, ceux-là. Cependant, afin d'éviter une trop grande usure du ticket, TCO en a limité le nombre d'écritures à 30. Pourquoi 30, me direz-vous ? Il s'agit de la moyenne des rechargements effectués dans la vie d'un ticket lors des tests. Ne pas oublier que l'antenne est incorporée dans le papier, donc le ticket ne peut supporter qu'un certain niveau de pliage. Au-delà, le ticket est trop abîmé pour être lisible. Évitez de jouer avec les miens là où vous me devrez 2,50€ pièce. Hein. En attendant, au-delà des 30 recharges, les services de TCO désactivent le ticket et celui devient illisible. Mais les premiers tickets rechargeables distribués par TCO lors du lancement en mars dernier présentaient une petite anomalie. Le compteur était déjà à zéro.
Plantage.
Si la validation avec le ticket était possible, le rechargement ne l'était pas. La distribution des tickets concernés a été rapidement interrompue avec un rappel auprès des agents et des distributeurs en attendant la livraison des nouveaux tickets. Mais les clients, eux, ont dû jeter leurs tickets défectueux. Les nouvelles séries de tickets rechargeables ne présentant plus ce défaut, on peut enfin les garder. Un incident sans conséquence pour TCO, passé presque inaperçu, même si cela rappelle que les organismes de transport doivent quand même vérifier le fonctionnement et la distribution des tickets. En matière de ticketing, TCO est plutôt avancé. L'application a ouvert l'utilisation d'un téléphone portable comme ticket avec un paiement par SMS sur la navette aéroport dès 2015. Le rechargement de tickets sur la carte Pastel dès 2020 sur Android et iOS, ainsi que la carte Pastel intégrée au téléphone Android la même année. TCO permet aussi le paiement en crypto-monnaie sur Android depuis 2025. Véridique. Bon, on va quand même rappeler qu'au niveau européen, actuellement, seule la norme Calypso a permis d'unifier les systèmes de paiement et de validation de plusieurs réseaux de transport et a offert des solutions de paiement. Ben justement, la validation via Android et iOS à partir de 2021 et l'achat de tickets avec Apple Pay à partir de 2024, notamment pour les tickets Navigo d'IDF Mobilité avec RATP et SNCF. Calypso a développé un système multiréseau Hoplink, mais est souvent limité à la coopération entre plusieurs opérateurs d'une même région, comme la carte Corrigo, avec les 28 réseaux de Bretagne, dont le réseau BrainsGo des TER et CAR de la région, le réseau Star de Rennes Métropole, le Bibus de Brest Métropole, etc., etc. Et la même carte Pastel que l'on a fonctionne sur les réseaux de TCO, l'IOTER et CAR de la région Occitanie, pour la partie ouest, hein, c'est encore la partie ex-Midi-Pyrénées, et également le TLP Mobilité de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Alors, vérifiez bien votre ticket avant d'embarquer dans un bus, mais surtout, validez-le s'il vous plaît, validez-le. N'oubliez pas de dire bonjour quand même. Pour le rappel, l'amende pour non-validation d'un ticket sur le réseau de TCO est de 70€. C'est quand même cher le ticket.
Saga Musics pour TRBL pour la démo Al Mackenrother, qui est un excellent hommage au design du jeu Wipeout 3 sur PlayStation. Mmh.
and it'll be necessary for a short time to reduce power. We suggest that you increase the volume of your sound and also adjust your visual contrast control.
Ici le grand gourou Skippy. Je vous conseille à tous, petits ou grands, d'écouter Éphémère sur 89.1 MHz. Cela vous fera pousser les cheveux plus vite, multipliera vos pieds et vous agrandira les narines. Écoutez Éphémère sur 89.1 MHz.
Ceci est le retour d'expérience d'un client exclusivement Apple vers l'univers Android. Cette cascade a été faite par un professionnel. Consultez un spécialiste afin de vérifier votre aptitude médicale à l'imiter avant de passer à l'acte.
Parce que je m'emmerde. Je disais, je m'emmerde. Bon, Dascritch, tu m'enlèves tout de suite les bips. On n'est pas le générique de BBC News ni YouTube qui censure les mots. On est sur une radio, nous. On fait un métier sérieux. Je disais donc, tous les gens, il me faut un challenge. Par challenge, comprenez, j'ai rien à faire de mon temps, donc faut que je trouve une occupation. Et à part baiser, je vois pas autre chose. En 2023, j'ai tenté de voir si je pouvais passer à Android. Alors oui, tout le monde peut passer à Android, c'est juste l'écosystème qui est différent. Mais j'avais des exigences. D'abord, pas de marque qui te foute, des bloatware sponsorisés. Ensuite, je veux une expérience la plus claire, sans appeler en double. Genre deux applis photo, deux applis mail, deux applis de calendrier, deux applis de contact, Samsung, Xiaomi, Huawei, etc., etc. Et enfin, un smartphone utilisable. Oui, ça, vous avez peut-être un peu de mal à écouter ça. Mon choix s'est donc porté tout naturellement sur un Galaxy Pixel 6a, par une offre très alléchante de Bouygues Télécom, dont je regretterai un an plus tard et plus de 300 euros de frais de résiliation, mais j'ai eu le smartphone. Et là, tout commence l'histoire. Déjà, le transfert des contenus. Android propose le transfert de vos données, détecte vos applis installées, propose le transfert des contacts, calendrier et de la galerie. Point à part pour moi, n'ayant que 64Go sur l'iPhone, maintenant 256Go de base pour l'iPhone 10, je frétille. J'ai dû activer le mode truc bidule pour avoir de l'espace en enlevant les photos du téléphone, mais accessible sur iCloud. Du coup, transfert des photos manuellement sur Google Photos. Et c'était d'un putain de bordel ! D'horodatage ! Toutes les photos prises par la caméra de l'iPhone ainsi que les captures d'écran étaient à leur bonne date et heure, mais tout ce qui provenait des téléchargements de photos depuis Twitter ou d'Internet était horodaté à la date du transfert. Sur 16 000 photos, 11 000 étaient datées au 28 février. Comment tu fais pour tout réorganiser avec ce bordel ? Mais mon cerveau, étant intelligent et aimant se faire du mal, hein, soyons concrets, a trouvé un contournement. Au lieu de tout transférer d'un coup, j'ai transféré de dossier en dossier, un par un. Et quand certaines photos étaient mal datées, je les sélectionnais en une fois et je changeais leur redatage à la date la plus proche que l'appli photo sur Mac me donnait. J'ai donc passé toute une après-midi pour que mes photos soient toutes pratiquement dans l'ordre.
Sage, Gabriel, sage, sage. Sèche tes larmes. Souffle un bon coup, voilà. Bois un verre d'eau et reprends.
Après tous ces déboires, j'ai pu commencer à utiliser mon Android, qui avait repris mon fond d'écran, l'emplacement des applications ainsi que leurs dossiers dans le menu d'accueil. Mais pas que, il a aussi repris mes alarmes. Pour me rappeler sûrement que le téléphone il va pas se payer tout seul, donc il faut aller bosser. En revanche, les notifications. Alors, il faut qu'on en parle. Alors, je sais pas, ça fait 3 mois que j'essaie d'expliquer facilement comment avoir sur chaque application auquel on reçoit une notification, de l'avoir en premier, et pas qu'elle soit classée en dernier. Je sais pas comment l'expliquer. Donc, comment vous dire? Quand une notification est classée importante, elle reste en première place avec les autres notifs de l'application, qui s'affichent dans la même boîte. Mais quand elle est classée comme pas importante, c'est-à-dire considérée comme silencieuse, eh bien le téléphone vibre toujours pour dire qu'il y a une notif, mais comme il y a d'autres applications qui envoient des notifs, eh bien la boîte qui regroupe toutes les notifs de l'application peut avoir descendu, ce qui fait qu'il y a bien la notif, mais 5 à 6 boîtes plus loin. Donc, je ne peux savoir quelle application envoyait le notif, et ça embête un peu. Contrairement à iOS, qui par défaut vous montre toujours en premier la dernière notif reçue. Mais je vais vous donner quand même une petite technique pour éviter ce problème. Vous allez dans les paramètres système, dans applications, et choisissez chaque application que vous considérez comme importante d'avoir les dernières notifs visibles en premier sur l'écran, et pour chaque type de notif, vous les marquez par défaut, affichés sur l'écran et vibreurs si ce n'est pas fait. Et voilà, plus de problème de notif qui se trouve en bas quand ça vibre. Elle s'affiche en premier plan et en première de la liste. Maintenant, comment j'ai vécu cette transition de système d'exploitation mobile et de son fonctionnement? Eh bien, je l'ai vécu très très bien. J'ai eu un téléphone qui me convient, très fluide, qui gère parfaitement le multitâche, un bon appareil photo, certes pas comme l'iPhone, mais il fait le boulot, et a des mises à jour de sécu jusqu'en mai 2028. Vraiment, c'est le minimum que j'attends d'un téléphone. Mais, il y a un mais. Je n'étais pas totalement, et à l'heure actuelle toujours pas, prêt à sortir d'Apple. Déjà, j'ai réussi une étape, à me sortir de la bulle en transformant mes photos et mes documents sur d'autres services de stockage en ligne que iCloud, Dropbox, Nextcloud, Google Drive, OneDrive, et bien sûr des sauvegardes locales sur disque dur. Mais il me reste 2 appareils auxquels je ne peux pas me séparer, mon Apple TV et mon Mac. Pour l'Apple TV, c'est simple, l'expérience utilisateur pour la TV est très fluide, sobre, pas de sponsoring pour d'autres programmes, d'autres plateformes comme Netflix, Prime, Paramount+, HBO Max. Et puis Google TV, je crois que c'est en disant le nom qu'on trouve le problème. Et pourquoi Mac? Eh bien, je ne veux pas de Windows à cause de la suggestion de publicité dans le menu démarrer, dans le démarrage pour m'inciter à m'abonner à Microsoft 365 ou à utiliser Edge. Project Spartan, je crois, ils ont changé de nom tout court. Donc, il faut bien trouver un juste milieu. Et pour le moment, macOS ne m'a pas fait de mal. Juste quelques applis faites pour x86 qui plantent au démarrage, mais je les relance et tout fonctionne. Bien que j'ai recommencé à utiliser Linux.
Oh, attendez, oh, il y a une bouteille de champagne dans le frigo du Tetalab. Je vais chercher là de suite.
Fedora en l'occurrence.
Ok, champoni.
Alors, c'était rapide. C'était sur Amazon, un petit NUC AMD 5560U qui était à moins de 300 balles. Comme c'est de l'AMD et que ça marche très bien sous Linux, j'ai tenté le pas. Et c'est fluide. Quand c'est sur un bon matériel, c'est très fluide. Pas de problème hardware, à part le son. Selon les distribs, le port jack 3,5 mm n'existait pas. Bon, ça a été réglé depuis Ubuntu 24.04, donc c'était peut-être un problème kernel ou autre. Pas de lag entre les fenêtres, des vidéos YouTube en 4K 60fps sans perte de frame. C'est un régal. Ça me change de mon ancienne config PC fixe qui était un Core i3 2120 avec une carte graphique GT 610. Le bon technologique et compatibilité, on le ressent en pleine face. Il faut aussi penser, alors ça c'est point par, ça c'est pour Fedora, il faut penser à installer FFmpeg pour permettre la lecture des vidéos se trouvant sur Twitter ou Dailymotion. Sur Fedora, c'est en 3 commandes. Là où sur Debian, c'est en 1 commande. En revanche, il me manque toujours mes programmes Adobe. C'est frustrant, mais je ne me vois pas refaire un par un tous mes projets Premiere Pro sur Canon Live et la compatibilité des fichiers Photoshop sur GIMP ne fonctionne pas avec moi et je pense avec personne. Mais pour du web, mail, consommation de VOD, retouche audio sur Audacity, programmation C, HTML, CSS, PHP, ce sont des noms très divers, hein, je reprends un peu plaisir à utiliser Linux. Malheureusement, pour certains, en ce qui concerne mes déplacements, ma prod vidéo et le fait que j'ai toujours un prêt en cours sur l'appareil, hein, je continue à utiliser sur mon Mac. Mais du coup, l'iPhone, dans toute cette histoire, que devient-il ? Eh bien, si vous avez bien écouté, je parle au passé. Parce que depuis le Pixel 6... Ah ! Oh, désolé, toi avec ton Nokia, là. Parce que depuis le Pixel 6a, il est allé dans les mains de ma chère mère. Puis en 2024, j'ai pris le Google Pixel 7a, 3 mois plus tard, dans les mains de ma mère. Et cette année, je pensais que ce serait mon année, Android, en prenant le Google Pixel 8 Pro. 2 semaines après, dans les mains de ma mère. Je me demande si c'est pas elle qui me glisse des mots à l'oreille pour avoir un nouveau téléphone chaque année.
Ou un abonnement pour une psychanalyse.
Donc au final, je reviens très vite à l'iPhone. Et j'ai même upgrade de mon iPhone 12 par le 15. Pourtant... Android, je l'accorde, quand il a un bon hardware et un bon software, il est très très bon. Ça, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas encore pour moi et j'en suis désolé. Du coup, pigeon que je suis, j'ai retrouvé mon iPhone, la Watch, l'Apple TV, iCloud Photo. Seul l'iPad n'a pas survécu. Il est encore une fois allé dans les bras de ma mère et s'en sert pour regarder Secret Story.
Oui, et ?
Ben, on demolde le télépoubelle, tout ça.
Oui, et ?
Ah, ok, t'as postulé. Je reprends. Ne zappez pas.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Après Xbox Series S et Xbox Series X, voici Xbox Series Z. Découvre la facilité avec Copilot pour faire mouche à tous les coups.
Ouais ! Encore un headshot, trop facile !
L'assistance contextuelle avec Clippy pour trouver les bonus.
Devant toi, tu as un bonus, un couteau à beurre, une arme sûrement très utile, tu devrais la prendre.
Mais aussi Teams pour discuter avec tes amis, Excel pour compter les points et PowerPoint pour montrer tes progrès. Xbox Series Z, la première console compatible Microsoft 365. Allez, achète une Xbox. Merde quoi, c'est très chiant de ne pas être numéro 1 du marché. Microsoft quoi, vous en avez toujours rêvé. Bon, de toute façon, on va pourrir Windows 11 pour que vous puissiez plus jouer dessus.
Nintendo Switch 2, la console nouvelle génération, disponible en pack édition limitée Battleflight. Découvrez la console ultra portable Switch 2 en couleur camouflage et son drone à fibre optique. Livré dans son boîtier de transport durci, son starter pack de 8 grenades incendiaires et son lot de patchs exclusifs Slava Ukraine. Avec la caméra intégrée au drone, le terrain de jeu apparaît en immersif, c'est hyper réaliste.
Jouez, participez au classement mondial et gagnez le battle dress officiel des dronistes de l'armée ukrainienne et un stage d'exercice pratique dans le Donbass tout frais payé où vous frotterez au meilleur.
Nintendo Switch 2 Pack Battleflight Limited Edition, plus réaliste que jamais, même sur le terrain.
Depuis que le jeu est jeu, tout le monde connaît la légende. Le vide cosmique, 2 barres ennemies, et la balle. Sony et Atari Legends, en collaboration avec Warner et les sœurs Wachowski, présentent Pong VR. Redécouvrez le classique, désormais en réalité virtuelle, sur PlayStation 5 Pro. Désormais, vous n'êtes plus la barre, vous êtes la balle. Pong VR, exclusivement sur PlayStation 5 Pro avec le casque PSVR. Relèverez-vous le défi ?
And now look at the latest technological trends in tomorrow's world.
Eclectic Matter Tomorrow's World Today, qui est une compilation de la célèbre émission d'actualité technologique diffusée par la BBC entre les années 60 et 90.
By 2015, the world population will be about 8 billion.
Anyone in the world with a computer and a modem
can send information.
Tiny packets of information.
Automatic navigation systems.
People may be living permanently in space stations.
Although that's going to happen.
Growing demand for electricity.
Solar energy.
Virtual reality.
Holographic TV.
There should be space planes that take off horizontally.
There'll also be microcomputers that will open up completely new possibilities.
One more step towards controlling machinery.
How will the future affect the food we eat?
Probably be farming sunshine as well as sheep.
The Channel Tunnel should be complete.
Our recording music using digital techniques.
Satellites will give us access to hundreds of channels of entertainment.
Burning coal and gas should get cleaner and more efficient.
But here's something we did get right.
Strands of glass that can carry light.
This device is a prototype.
Telecommunications have intruded into our lives.
All things will be made this way.
An information superhighway.
Shopping. Even organize a holiday.
It is still a few years away.
Somewhere in the future.
In the future.
In the future.
In the future.
Somewhere in the future.
In the future.
In the future.
Back to the future.
Fast electronics.
Micro mechanics.
Silicon chip.
Digital music.
And satellites will be telling us even more than they do today about our planet.
First speech synthesizer.
Optical fiber.
Smart, connected,
interactive entertainment center.
This is a home computer.
Digital image stabilizer.
Futuristic technological wonders.
As the political links within Europe grow stronger.
Fancy a pizza.
First home computer terminal.
High capacity fiber optic cables.
Isn't enough bandwidth available.
An electronic signal.
High capacity digital communications network.
So remember where you saw it first.
Eclectic method.
That's already happening on something called the internet.
Vous écoutez Radio Éphémère ? CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes en mode Lost and Found pour notre retour sur les ondes. Et nous allons rendre hommage à l'une des personnes qui a énormément influencé nos environnements graphiques. Bill Atkinson nous a quittés le 5 juin 2025, et même si ses travaux les plus connus concernent Mac Classic, l'OS d'Apple qui fut utilisé entre 1984 et 2002, son apport à la sémantique graphique a été aussi sur les autres systèmes fenêtrés. Bill Atkinson se réservait à des études en neurosciences, mais alors qu'il écrivait sa thèse de doctorat, un de ses anciens profs, Jeff Raskin, lui envoie un billet d'avion aller-retour, l'incitant à venir visiter son employeur pour un week-end, une start-up qu'il décrit comme passionnante. C'est donc ainsi que Bill Atkinson se retrouve avec Steve Jobs, qui lui fit découvrir Apple Computer et le présente à la trentaine de salariés. Nous sommes en 1978. Apple Computer est en train d'exploser avec son premier hit, l'Apple II. Steve Jobs arrive à convaincre Bill Atkinson de quitter ses études en ces termes. N'est-ce pas plus fun de surfer en haut de la vague des innovations que de pagayer dans le creux ? Bill et Steve vont très vite s'entendre. Ils resteront des amis proches et jamais il ne s'est ennuyé chez Apple. Bill Atkinson est le gourou. Il porta en 2 semaines le langage Pascal UCSD sur Apple II, alors que ses collègues ne juraient que par la programmation assembleur. Il le fait pour convaincre l'équipe des avantages d'un langage de programmation indépendant du matériel, proposant des bibliothèques de fonctions réutilisables et extensibles. Pascal restera son principal langage chez Apple. Notamment pour le Apple Lisa, le premier ordinateur de la firme à la pomme avec une interface graphique. Convaincu par ce qu'il a démontré en Pascal, Steve Jobs le nomme designer principal du GUI du Lisa, l'interface graphique. À ce titre, et avec son mantra « simplicité et intégration », Bill impose d'inclure la souris dans le carton de l'ordinateur pour simplifier son interface et il invente la barre de menu en haut de l'écran. Ou encore, il est le co-créateur avec Steve Jobs du concept visuel de rectangle arrondi qui fut la signature visuelle du Macintosh et plus tard de l'iPhone. C'est donc sur le Lisa qu'il créa nombre d'éléments graphiques signatures. Mais il coda aussi des primitives de dessin accéléré, des optimisations très appréciées à une époque où les CPU aux capacités de calcul limitées éditaient aussi la mémoire graphique. Pas de GPU, pas d'accélération matérielle, ces notions arriveront en micro-informatique avec l'Amiga en 1985. Un des algos qu'il créa permet de dessiner rapidement des cercles pleins sans avoir à faire appel aux fonctions trigonométriques sinus et cosinus. Ceci en redécouvrant un procédé déjà décrit par Jack Bressenham. Je parle d'une époque où le concept de fenêtre et de souris n'existe pas, en dehors du Xerox PARC. Seules quelques dizaines de milliers de privilégiés ont pu le voir en action, et seulement un millier travaillent avec. Nous sommes 10 ans après The Mother of All Demos, et les ordinateurs accessibles aux entreprises et au grand public sont encore extrêmement lents. L'équipe d'Apple a l'intuition que si une interface fenêtrée est un poil trop peu réactif, que la souris a ce petit lag perceptible, alors l'expérience utilisateur ne sera pas convaincante et donc tout ce travail sera fait en pure perte, d'où les besoins d'optimiser les temps de rendu. L'ensemble de ces procédures primitives graphiques fut réuni dans la bibliothèque QuickDraw qui a permis d'accélérer, d'industrialiser l'aspect du GUI du Lisa puis du Finder du Mac, un projet qui lui a pris 4 ans. 24 ans selon Steve Jobs qui voyait en Bill Atkinson le bosseur fou visionnaire. C'est cette bibliothèque QuickDraw qui était étendue par les cartes graphiques couleurs et accélérée sur le Macintosh en gardant les mêmes points d'appel. Car oui, on l'oublie un peu vite, les premiers Macintosh étaient purement monochrome, noir sur blanc, en 512 par 368 pixels. Oui, plus petit qu'une icône de Mac actuelle. Comme le Lisa, le Mac est un des premiers ordinateurs familiaux qui ne démarre pas directement sur un langage de programmation. Il faut des logiciels complets pour le faire vivre. Atkinson développera MacPaint, l'un des deux logiciels commerciaux achetables lors de la sortie du premier Macintosh en 1984. Un soft conçu pour fonctionner sur un système équipé à l'époque que de 128 kilo-octets de RAM. Écrit en 5800 lignes de Pascal et 2700 lignes en assembleur, son code minimaliste est une démonstration brillante de la bibliothèque QuickDraw. Sa barre verticale d'outils en deux colonnes sera la signature de son interface, laquelle inspirera directement de futurs poids lourds de l'industrie infographique, Deluxe Paint par Electronic Arts, Paint sous Windows par Microsoft, et surtout Photoshop, racheté plus tard par Adobe. Autre avancée méconnue de ce logiciel, la possibilité d'un undo, de revenir en arrière. D'une seule étape soit, mais la possibilité de corriger une fausse manœuvre dans une composition graphique était une avancée révolutionnaire qui défiait la consommation de RAM de ce type de logiciel. En 2010, Apple a célébré l'importance de QuickDraw et MacPaint en donnant le code source de ces deux logiciels au Computer History Museum où ils sont en consultation libre sur leur site web. MacPaint était un initiateur qui eut une brève vie commerciale. Sa dernière version, la 2.0, sortira en 1987 car il fut très vite éclipsé par ces logiciels qui l'ont inspiré. En 1985, Bill Atkinson va tenter de donner vie au DynaBook, un concept informatique imaginé par Alan Key qui préfigurait nos tablettes. Si le projet matériel n'a pas convaincu le management d'Apple, le logiciel arrivera à maturité. Un soft qui organise la connaissance multimédia en fiches liées entre elles de façon sémantique. Et là aussi, Bill Atkinson va marquer l'informatique. Ce logiciel s'appellera HyperCard, le premier logiciel grand public de construction d'applications WYSIWYG et no-code. Ou quasi no-code, car derrière l'interface de construction en glissé-déposé, le code en langage HyperTalk se construisait et ne demandait qu'à être étendu. Là encore, un logiciel séminal qui a tant amené. Comme nous l'avons dit dans notre série sur l'URL, HyperCard a précédé de très peu le web, de 2 ans. Lors de la présentation de ce logiciel dans la grande conférence Mac Expo le 11 août 1987, Bill Atkinson termine sa conférence devant une foule hyper enthousiaste par une présentation glaçante. Le nombre de morts du sida. En 1987, parler de cette maladie est encore tabou, même si une proportion non négligeable des développeurs dans la Silicon Valley sont gays. Atkinson offrira la licence d'HyperCard à Apple, qui distribuera son logiciel sur chaque nouveau Macintosh. HyperCard sera le moteur derrière nombre de logiciels d'entreprise, mais aussi d'un jeu d'aventure mythique, Myst. HyperCard dépérira car quand Bill Atkinson quittera Apple, personne ne maintiendra le logiciel. Un émulateur en ligne d'HyperCard est maintenu par The Internet Archive, permettant de faire tourner sa conséquente Logitech. C'est en 1990 que Bill Atkinson quitte son premier employeur. Avec 2 autres ex-collègues, Andy Hatfield et Mark Porat, ils fondent une boîte dont le nom ne vous dira rien, mais à l'influence énorme, General Magic. Bill n'a pas abandonné l'idée de construire un DynaBook, une tablette optimisée pour son HyperCard, et Apple a préféré cofinancer ce projet dans une entreprise externe. General Magic veut créer des éléments pour construire un PDA, un ordinateur qui tient dans une poche et qui fait aussi téléphone. Oui, les ancêtres du smartphone. Et ceci alors qu'Apple, de leur côté, va construire leur premier PDA, le Newton, après avoir été dans le premier tour de table de General Magic. Sympa. General Magic va développer OS et utilitaires pour animer les PDA de gros constructeurs informatiques et de géants des télécoms. Cet OS, Magic Cap, restera confidentiel, mais il inspirera les OS embarqués à venir comme Palm Pilot ou l'iPhone. Sa filiation avec HyperCard est évidente à l'usage. Comme le dit l'autre cofondateur, Andy Hatfield, dans le documentaire General Magic The Movie, mettez l'utilisateur au centre. Il y a plein d'autres opportunités de laisser passer d'autres sujets avant l'utilisateur, comme la rentabilité ou un but stratégique bien à vous. Mais à long terme, vous devez toujours penser à l'utilisateur en priorité. Visionnaire avec des partenaires renommés, General Magic ne décollera pourtant pas. L'entreprise ferme ses portes en 2001 et son très fourni portefeuille de brevets fut racheté par Bill Allen, cofondateur de Microsoft. Parmi ses brevets, la reconnaissance d'écriture manuelle, les communications entre appareils appairés et les premiers emojis animés. 25 ans après, ces fragments sont indispensables dans nos outils actuels. Après cette aventure, tous les salariés furent débauchés par des géants. Bill Atkinson entre en 2007 chez Numenta, boîte créée par Jeff Hawkins qui avait créé son ex-concurrent Palm Pilot. Cette fois-ci, il se tourne vers l'intelligence artificielle. Là aussi, son travail sur les neurosciences et son art de la programmation sèment les graines d'une autre évolution, les LLM, Large Language Models, le domaine actuel phare de l'IA. Éloigné du clavier, Bill Atkinson avait une grande passion pour la photographie de la nature. Il a même auto-édité Within the Stone, un livre de microphotographie de pierre, une incroyable déambulation dans l'univers minéral. Là aussi, cette activité artistique lui permit de peaufiner certains procédés numériques et le motivera à concevoir quelques logiciels photo sur iPhone comme Photocard. Bill Atkinson s'est éteint paisiblement à 74 ans, entouré de sa proche famille. Il nous lègue un immense vocabulaire graphique et des outils qui furent salués par l'industrie en les recréant, en les perpétuant. Aaron Swartz était un génie universel et notamment il nous a légué dans sa sagesse infinie les flux RSS sur lesquels notre podcast a été bâti, mais aussi le langage Markdown. Et Markdown, c'est génial. Ben, tu es d'accord avec moi.
Vous vous souvenez d'Hebdogiciel? Mais si, le harakiri de la micro-informatique des années 80 qui a tenté de se suicider en titrant « Désolé, l'informatique, c'est de la merde !» C'était à l'été 1985. Hebdogiciel aura duré 2 ans de plus, sans compter le magnifique hommage rendu par ST Magazine avec son hors-série ST Magiciel de l'été 91. Rassurez-vous, ST Mag a tenu jusqu'en 98. Moi pas, j'étais passé à l'Amiga. L'idée n'est pas nouvelle, et je ne parle pas du cuisinier pseudo-animateur télé ou de l'animateur télé pseudo-gastronome, on ne sait pas, on ne sait plus. In English Naturlish, ce sont les fameux articles XYZ Considered Harmful. La mode a commencé en 1968 avec l'article Goto Statement Considered Harmful d'Edger Dijkstra. Et le père Dijkstra, c'est pas Jojo le Clodo. Oui, j'aime bien me lancer des défis radiophoniques comme tenter de prononcer 2 fois en suivant Dijkstra. En plus, le titre Considered Harmful, c'était même pas de lui, c'était une idée de Niklaus Wirth. Le professeur Wirth était alors éditeur du journal auquel Edger avait envoyé son article A Case Against the Goto Statement. Le révérend père Wirth, il était bien content de trouver un supporteur de la programmation structurée qu'il avait créé avec son langage Pascal. Et maintenant, il faut que j'insère un numéro de ligne pour sauter au paragraphe suivant.
À l'aise, Blaise.
C'était une blague de programmeur. Si vous l'avez pas, vous aurez qu'à demander à ChatGemini. Depuis ces temps glorieux, le wiki originel, c2.com, pâlement imité par Wikipédia, recense les XYZ Considered Harmful, ficelles faciles ayant conduit à nombre d'articles parfaitement dispensables. Il y a même un Considered Harmful Considered Harmful. N'empêche que, il y a un Markdown Considered Harmful, ça doit vouloir dire quelque chose. Et pas qu'un. Je me suis arrêté à 10 résultats de recherche, que vous trouverez dans les notes de l'émission. Oui, oui, Daskritch, je sais pas compter, il y en a 11. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Markdown, c'est du texte brut mis en page façon machine à écrire. Par exemple, sous les titres, on met une ligne de tiret, ça fait un souligné façon ASCII art. C'est une syntaxe qu'on peut compiler en HTML, en PDF, etc. L'intérêt étant que c'est plus plaisant à écrire que saisir directement du HTML. Alors, où est-ce que ça a vrillé? Pourtant, ils avaient rationalisé tout ça dans Common Mark. Vraiment? Pardon, GitHub Flavored Markdown. Avez-vous regardé la liste des dialectes supportés par Sundown, Showdown, Pandoc? Ma preview qui marche bien dans Visual Studio Code, est-elle vraiment compatible avec GitHub? Spoiler, non. Demandons à Wikipédia. Je cite wikipedia.org.
Markdown n'a jamais été formellement standardisé. Diverses variantes ont été développées par des tiers afin de pallier ce qui était perçu comme des limitations du langage originel.
Il est sérieux, lui ? Évidemment qu'il était séduisant, l'aperçu au rendu impeccable dans Visual Studio Code, mis à jour en temps réel et scrolling synchronisé avec le fichier source côte à côte. Puis le côté obscur de la force aussi, il était séduisant. Pourquoi ai-je abandonné AsciiDoc au profit de Markdown? Il était bogué, c'est un fait. AsciiDoctor alors? C'était un progrès, mais ça restait page-oriented. Un fichier source égale un fichier HTML ou PDF. Sauf que Markdown aussi. Au moins en AsciiDoc, ils avaient des includes. Oui, mais bien sûr que je peux appliquer un préprocesseur sur chaque fichier Markdown. Et ça va marcher par l'opération du Saint-Esprit lors de la preview dans Visual Studio Code. Peut-être qu'ils ont raison, les pitonneux, d'écrire en Sphinx. Ou plutôt en Rust, restructuré texte, ou je ne sais plus quel acronyme débile s'est demeuré en choisi. Alors que REST s'était déjà pris par un concept totalement différent, le Representational State Transfer, et c'est pas comme si c'était dans un domaine totalement déconnecté du web dev. Mais enfin, je suis plus étudiant, j'ai passé l'âge de latex. Cette phrase ne sonne pas du tout comme prévu.
Oui, alors normalement, ça s'écrit latex visuellement, mais ça se prononce latex. C'est parce que le X, en fait, c'est le CH grec qui...
J'ai pas fini ma chronique.
Ok.
Bon, je fais quoi alors? Je reviens à Docbook XML? J'écris des man pages en rof? Ah bah non, en rof. Ah bah non, en trof. Ah bah non, maintenant c'est GNU grof pour les man pages Linux. Je t'en foutrais, moi, du grof. Ils peuvent quand même pas être dans l'erreur par million, les utilisateurs de GitHub. Ben si, il n'y a pas d'indice ni d'exposant en Markdown. Bien sûr, Pandoc peut le faire, mais c'est incompatible avec les autres dialectes. What did you expect? AsciiDoc pouvait le faire de base. Daskritch, qui est un vrai webdev, pas un guignolo comme moi, me rappelle que techniquement, je pourrais utiliser des balises HTML, et c'est vrai. Le révérend père Saint John Gruber l'a dit, verset inline HTML, et les grands prêtres de l'église du Common Mark l'ont écrit clause 6.6 HTML brut. D'ailleurs, il y avait du Aaron Swartz là-dedans, mais c'est pas parce que le type était un génie qu'on m'empêchera de dire que Markdown c'est du caca. Car enfin, si je voulais faire du markup, j'utiliserais pas Markdown. Vous postez sur vos forums en HTML? Non, vous écrivez en bébé code. Vous écrivez vos pages Wikipédia en HTML? Non, vous utilisez le langage Wikitext. Oui bon, ok, Wikipédia dit que Wikitext est un markup. Daskritch, mon petit, la vérité m'oblige à te le dire, ton Markdown commence à me les briser menu. L'ironie est que GitHub supporte nativement AsciiDoctor. Le site AsciiDoc a été considérablement modernisé. Alors, qui sait, leur implémentation de référence est peut-être nettement moins boguée qu'à l'époque où elle avait créé un vide comblé par AsciiDoctor. Ils ont même un AsciiDoc.js pour les éditeurs web entièrement client-side. C'est décidé! Je retourne à la maison, je ressors mon makefile AsciiDoc vieux de 10 ans et je n'écrirai plus jamais un seul readme.md. Ah, mais pourquoi je vous parle de ça? En vrai, comme disent Legends, je voulais juste convertir en HTML mes notes Markdown. Il est vrai magnifiquement rendu par le Visual Studio Code. Tout ça en vue de souder un adaptateur de joystick analogique PC vers Atari STE, saisir le schéma d'un harnais de câblage. EasyEDA, l'éditeur en ligne ou hors ligne de JLCPCB, il est dédié à la conception de circuits imprimés, et son catalogue de composants est limité, même si j'ai bien trouvé une prise DA15 en solder bucket, donc à souder sur des fils volants. KiCad alors? Bah pareil, KiCad, c'est pour faire du circuit imprimé. Un circuit imprimé à la fois d'ailleurs, parce que je ne suis évidemment pas le seul à poser la question. Quel workflow pour concevoir plusieurs circuits imprimés interconnectés, par exemple une carte mère, un panneau de façade et quelques connecteurs et interrupteurs volants reliés par des fils? Un harnais quoi! La réponse? Tu fais pas. Enfin, t'ouvres un nouveau projet KiCad pour chaque carte et t'assures la cohérence à la main. J'imagine qu'on peut écrire un script Python pour valider la correspondance entre les connecteurs intercartes. C'est particulièrement croustillant quand on sait que les connecteurs pour câble en nappe, comme on avait sur les vieux disques durs, les lecteurs de disquettes... Voilà, l'icône de sauvegarde. Et ma main dans ta face, tu la vois? Ces connecteurs ont été inventés pour interconnecter des circuits imprimés. Et en 2025, on peut toujours pas le faire dans KiCad. Altium Designer, il peut le faire. Si t'as la bonne licence. Annuelle, bien sûr, parce qu'on est en 2025. Certes, KiCad, c'est pas cher, et c'est vraiment pas de l'Adobe. On peut même concevoir des lignes différentielles ultra haute vitesse, PCI Express, avec égalisation de longueur et impédance contrôlée. Parmi la masse de réponses mi-fig mi-raisin sur Stack Overflow et consorts, j'ai découvert un soft tout simple pour noter le câblage de mes connecteurs D-Sub. WireViz. Tutoriel rapide et efficace, entrée en YAML intuitif, sortie en HTML, powered by GraphViz, avec en prime génération de la BOM, la Bill of Materials, la liste des composants. On peut même mettre une image pour chaque connecteur. Faudra que je vous parle de la norme des subs. Vous saviez que dans les connecteurs des subs, le numéro de chaque pinouille est moulé dans le plastique en tout petit? Et des deux côtés, c'est des génies! Côté pinouille, visible capot refermé. Et côté soudure, des génies quand vous dit « pas possible de décaler toutes tes soudures d'une pinouille ». Cherche pas. Direction Wikimedia Commons et hop, une image de connecteur DA15F et une de connecteur DE15M. Pourquoi? Oh, pourquoi eût-il fallu que je testasse cette fonction? WireViz marche parfaitement avec les PNG de Wikimedia Commons, mais en toute logique, les chiffres sont petits à l'échelle du schéma entier, et comme ce sont des images raster, quand on zoome, c'est flou. Vous qui êtes senior webdev, vous connaissez la solution, SVG. Ni une ni deux, j'édite mon YAML pour référencer les SVG à la place des PNG, et paf, GraphViz bombe. Eh ben, et le paquet MacPorts, par défaut, n'est pas compilé avec la libre SVG. Une ligne de commande plus tard, GraphViz est rebuildé avec support SVG. Sauf que l'API Python utilisée par WireViz ne comprend ni la taille ni l'aspect ratio des SVG. En tout cas, pas ceux de Wikimedia Commons. Epic fail! Comme disait M. Brochant, bon, on a assez perdu de temps comme ça. SVG considered harmful? Cette chronique a été rédigée dans Vim. Faudra que je vous parle de VI et comment il a été amélioré. C'était Benoît pour CPU.pm avec la participation de l'Associlicium pour la préservation du patrimoine rétro-informatique et vidéoludique. Oui, oui, l'Atari STE, tout ça, tout ça. Faudra que je vous parle de l'évolution de l'Atari STF en Atari STE. Daskridge, rends-moi ce micro!
Non, trop tard, Ben. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR dans la série Lost and Found, release EX0222, rentrée 2025, partie 2. Cette release, l'équipe est composée de Infested Grunt, Thibaut, Benoît, Daskritch, Noco Gabriel et Enflammé. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Merci aux équipes du Theta Lab et de Topic qui nous ont permis d'enregistrer chez eux ce soir. L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/222. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi dans 15 jours à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct et midi, nous retrouvons Monique Blanquet depuis le studio A de la radio. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+ et en stream sur Internet.